Torahbox.com pour la diffusion du judaïsme aux francophones vous retransmet un cours de Talmud. Traité Choulin, page 138, Daf Kuf Lamed Het. Bonne écoute et bon limoud.
Abaye n'est pas d'accord avec ce qu'a dit Rav Dimi. Vetani Tana Mané Ben Arbaim Slaim. Est-il possible que Tana se réfère sans préciser davantage à un Mané de 40 Slaim alors que nous avions en tête le Mané ordinaire de 25? Rav Dimi répond, in, oui, c'est possible. Ve'atania, et c'est ce qui est enseigné dans une braïta. Alors cette braïta, pour la comprendre, il faut brièvement dire qu'il s'agit de savoir à quel moment un keli, un ustensile, peut devenir tamé. Alors le principe, c'est qu'il faut, lorsqu'on le fabrique, qu'il y ait gmar melacha, qu'il soit totalement fini. Tant qu'il n'est pas totalement fini, il ne peut pas devenir tamé. Et puis ensuite, lorsqu'il a été totalement fini, s'il est abîmé ou déchiré, il se peut qu'il perde cette possibilité de devenir impur, dans ce cas-là on le qualifie de taor. Ici on parle de chemet, c'est-à-dire d'une outre. Plus tard la braïta discutera de savoir quel est le but de cette outre. Il y aura une discussion pour savoir si c'est destiné, ce récipient en cuir cousu, à contenir des fruits ou des pelotes de tissu. Alors, chemet radassa, une outre nouvelle qui est en train d'être cousue. Apalpi shemkabel et trimonim. Elle n'a pas encore été totalement cousue. Mais il reste un trou à coudre qui lui permet quand même de contenir des grenades. Théora, malgré cela, elle est encore pure, c'est-à-dire elle ne peut pas devenir impure. Pour quelle raison? Parce qu'elle n'est pas encore terminée, bien qu'elle puisse contenir des grenades. Tefara, si on l'a cousue totalement, donc à ce moment-là, elle est évidemment impure, c'est-à-dire elle peut devenir impure. Elle a son statut de Keli. Le Nikrea, et qu'ensuite elle a été déchirée. Shiura, le minimum de cette déchirure pour lui enlever la capacité de devenir impur, que motzi rimonim, c'est le fait qu'elle laisse échapper les grenades. C'est l'avis de Tanakama. Rabbi Eliezer ben Yaakov Omer, Rabbi Eliezer, le fils de Yaakov, il dit non, que pakayot shel sheti. Il suffit qu'elle laisse s'échapper des pelotes de tissu, le tissu qui est utilisé pour la trame des tissus. Il y a un tissu différent pour la chaîne et pour la trame. Donc des pelotes de textile de trame. Et la Braïta précise que le poids de ces pelotes, achat me'arba, c'est un quart de mané ben arbaim slaim, d'un mané qui est de 40 slaim. Autrement dit, nous voyons de cette Braïta qu'un tana peut utiliser un mané de 40 slaim. La Mishnah est ensuite citée, donc on continue à citer la Mishnah d'origine. Le Hamanotenlo, etc. Combien doit-il donner au Kohen pour Eshitagez? Et on avait dit 5 slaïm en Judée, qui équivalent à 10 slaïm en Galilée. Avec de la laine qui doit avoir été blanchie et ne pas être crasseuse. Tana, hein, une braïta explique. Lo, sheyelabnenu vitnenu lo. Il ne s'agit pas que l'on exige que le propriétaire la blanchisse et la lui donne. Et là, j'ai la bnenu Kohen. C'est plutôt que le Kohen doit la nettoyer. Le yamod al chamesh slaim. Et qu'ensuite elle pèse 5 slaim. Mishnah disait ensuite, il s'agit que de la sot beget katan, il fallait qu'il y ait suffisamment de laine pour pouvoir en confectionner un petit habit. La Gemara demande, maintenant, hanemile, d'où sait-on ceci? Amar Rabbi Yoshua ben Levi. Rabbi Yoshua, le fils de Levi, a répondu. Amar kra. Ce verset, qui est un verset immédiatement après le verset qui institue le prélèvement de Reshitagez, dit, en parlant des Kohanim, la Hamod le Charet, il devra se tenir devant Kadosh Baruch Hu et faire la Avoda, le service au Bet Amigdash. Davar, Shehu, Raoui, le Sherut. Du fait de la proximité du Pasuk, on en déduit que ce que le Kohen recevra devrait être quelque chose qui lui permet d'être utilisé dans le service du Bet Amigdash. Mainiou, de quel habit s'agit-il? Autrement dit, quel est le plus petit habit? Avnet, il s'agit de la ceinture du Kohen. L'Agma dit Emma Me'il. Et pourquoi est-ce que je ne suggérerais pas qu'il s'agit de la robe du Kohen, qui évidemment demanderait plus de laine? L'Agma répond Tafasta, Merube lo Tafasta. Si tu prends ce qui est le plus important, tu n'as pas pris. Tafasta Muad, Tafasta. Mais si tu as pris la plus petite quantité, tu es sûr. C'est un principe général que l'on ne peut pas, en cas d'incertitude, affirmer qu'il s'agit d'une quantité importante lorsqu'il y a une quantité moins importante qui, elle, est évidemment obligatoire. Et donc, en vertu de ce principe bien connu que si tu as pris beaucoup, tu n'as pas saisi certainement, mais si tu as pris un peu, tu es certain, on ne peut pas déduire de ce contexte plus que la quantité de laine nécessaire pour confectionner le havnet. L'agma inverse, Vehema kippa shel tsemer. Mais disons simplement qu'il s'agirait d'un bonnet de laine. Il s'agit ici de l'un des habits du Kohen Gadol. De Tania, comme on a appris dans la Braïta suivante, kippa shel tsemer haïta munachat b'rosh Kohen Gadol. Le Kohen Gadol avait sur sa tête un bonnet en laine, Valea Tzitz Natun, et la plaque d'or qui s'appelle Tzitz était placée dessus, le Kayem Machenehemar, afin de réaliser ce qui est écrit dans un verset, qui est un verset de Shemot dans le chapitre 28, le Passouk, le verset numéro 37, et qui dit, le Samta Oto Albetil Techelet, tu le mettras, il s'agit du Tzitz, donc cette plaque en or, sur un ruban de laine bleue. Quand on parle de ruban, c'est discuté par les commentaires. Rachid dit que c'était que les deux rubans en question étaient faits comme un genre de bonnet. D'autres explications sont proposées. En tout cas, on retient donc qu'il y aurait ici une possibilité de consacrer la laine à une confection d'un petit vêtement nettement plus petit. Là-dessus, la Gemara répond à Markra, le verset dit Hu uvanav. Le verset de Devarim que nous avons déjà cité, qui est juste après la mitzvah de Reshit Hagez, et qui dit « La amot le charet de Shem Hashem », le Kohen se tiendra pour service au nom d'Hashem, « Hu uvanav kolayamim », lui et ses fils pendant tous les jours. Et l'Agma a déduit, puisque c'est marqué « Hu uvanav », c'est-à-dire le Kohen Gadol et ses fils, d'avoir achavé l'Aaron uvanav. Il faut qu'il s'agisse d'un vêtement qui est le même pour Aaron en tant que Kohen Gadol et pour ses fils. L'Agma a dit « Mais avnet nami lo shavé », mais la ceinture également n'est pas la même. En effet, la ceinture du Kohen Gadol à Yom Kippour, elle est entièrement en lin, et la ceinture d'un Kohen ordinaire pendant l'année, il est en mélange de laine et de lin. Donc il y a effectivement de la laine qui participe. Mais quoi qu'il en soit, ce n'est pas la même. L'Agma dit, Anecha le Mande Amar, on peut comprendre maintenant que Reshit Hagez se réfère à la ceinture, d'après celui qui dit, Avneto shel Kohen Gadol, Lozeu Avneto shel Kohen Ediot, que la ceinture du Kohen Gadol qui est uniquement en lin, qui met à Yom Kippour, n'est pas la même que celle du Kohen ordinaire toute l'année. Shapir, dans ce cas-là, cela va bien. Dans ce cas-là, la quantité de laine pour une ceinture est la même pour le Kohen Gadol et pour le Kohen normal. Et là, Nemanda Marzeu Avneto chez le Kohen Ediot, mais d'après celui qui dit que la ceinture qui est purement en lin que le Kohen Gadol porte exceptionnellement à Yom Kippour est également portée par un Kohen ordinaire tout au long de l'année, Maïka le Memar. Qu'est-ce que l'on peut répondre? C'est-à-dire, de quel vêtement s'agira-t-il? L'Agma répond, Shem Avnet Baolam. Le simple fait qu'il y ait une ceinture qui soit utilisée par les Kohanim, même si elle n'est pas la même que celle du Kohen Gadol, cela suffit à justifier que l'on puisse penser à la quantité de laine nécessaire pour une ceinture. Et on continue à citer l'Agma. L'Agma dit comme cela, Lois Pik Litno Ache Tzvao. Si le propriétaire de la toison n'a pas eu le temps de le donner au Kohen avant que cela a été teint, Itmar, il a été enseigné à ce sujet. Gazaz ou Machar, Rishona, Rishona. Ou d'après d'autres versions de la Gemara, Gazaz ou Machar, Rishona. Donc quelqu'un, il a tondu le mouton, et puis, avant d'avoir terminé de tondre les 5 moutons, il a vendu le mouton ainsi tondu. Rafrizda Machayav, ou bien il a vendu les 4 premiers moutons, et ensuite il tond le dernier. Afrizda dit, il est tenu de donner Reshit Hagez, puisqu'il possède encore les 5 produits de la tonte, les 5 toisons. Ravnatan Baroshaya Marpatour, Ravnatan le fils de Oshaya dit qu'il est dispensé de donner parce qu'il ne possède plus les moutons. Agmar va expliquer sur quoi s'appuie l'un et l'autre. Ravrizda Amar Chayav, Ravrizda dit, il est tenu de donner au Kohen, les Hagazaz. En effet, au moment où il tondait bien son mouton. Ravnatan Baroshaya Amar Patour, Ravnatan le fils de Oshaya dit, il est Patour. Mais idna de ka mala shiura, au moment où le shiur est entier, da'inan sonra, on exige que comme c'est marqué dans le texte de la Torah, ce soit sonra, ton troupeau, veleka, et il n'en est plus ainsi. Mara va amener une objection sur l'opinion de Rabbi Nathan bar Oshaya à partir de notre Mishnah. Tanan, on a enseigné dans notre Mishnah. Alokar, gez, tsono, shelovet, kochavim, celui qui est juif et qui achète là, le produit de la tonte d'un troupeau d'un Oved Kochavim, même s'il n'a pas encore été coupé, comme le dit Rashi, Patour mi Resitagez, il est cependant dispensé d'amener Resitagez. Ah, son oligzon. Ceci implique que si un juif a acheté le troupeau d'un non-juif, d'un idolâtre, et ce troupeau lui appartiendra jusqu'à ce qu'il le tonde, et ensuite, il redevient la propriété du non-juif, comme l'explique Rashi. Donc, dans ce cas-là, dans ce deuxième cas, Khayav, il est obligé de donner Resitagez. Et d'après Rabbi Nathan Ben Hoshaya, Amay, pourquoi est-il obligé? Kolchad vechad, chacun de ses moutons, Batar Giza, après la tonte, Nafkale Mirsute, il quitte la propriété du juif et il redevient la propriété du non-juif. Afrizda lui-même répond, Tirgemar Afrizda, Libla de Rabbi Nathan Ben Hoshaya. Afrizda a expliqué, d'après l'opinion de Rav Nathan, le fils de Hoshaya, que Gon Shiknan Lo Kol Shoshim Yom. Il s'agit effectivement d'un cas dans notre Mishnah où l'idolâtre aurait fait acquérir le troupeau aux Juifs pendant au moins 30 jours et non pas qu'il revienne immédiatement aux non-Juifs. Suite du texte de la Mishnah. Alokar Get Sono Shel Chavero. Celui qui achète le produit de la tonte d'un troupeau qui appartenait à un autre juif, etc. Alors on se souvient que la Mishnah disait que si la tonte, elle est au vendeur, c'est le vendeur qui est tenu, et s'il n'a pas laissé la toison d'aucun mouton au vendeur, c'est l'acheteur qui doit donner Resitagez. Almar voudrait savoir de qui émane cette opinion. Man Tana, quel est le Tana? L'Echadika Shiura Agabe Mocher, qui dit que lorsqu'il y a quelque chose qui est laissé chez le vendeur, en l'occurrence une partie de la toison, Batar Mocher Azinan, c'est au vendeur qui aura la responsabilité de la totalité de Resitagez de ce troupeau. Amar Avrizda, Avrizda répond, Rabbi Yehudaï, c'est l'opinion de Rabbi Yehuda. Ditnan, comme on a appris dans une Mishnah, cette Mishnah, elle figure dans la Maseret Pea, c'est la cinquième Mishnah du Perek. L'ichi du troisième perek. Et voilà ce que dit cette Mishnah. Amocher, kilche ilan betor sadehu. Celui qui vend littéralement des troncs d'arbres dans son champ. C'est-à-dire qu'en fait, ces arbres sont isolés, il ne s'agit pas d'un verger. Noten pea le cholechad vechad. L'acheteur devra donner pea pour chacun des arbres, séparément, parce qu'étant donné qu'ils sont séparés dans un champ qui est un champ dans lequel il y a des céréales, il ne peut pas être question de parler de verger pour les arbres. Et donc, de chaque arbre, on va laisser la PA. Amar Rabbi Yehuda a précisé, Matai, dans quel cas, Bisman Cheloshir Bahalasade, uniquement dans le cas où le propriétaire du champ n'a pas gardé pour lui certains de ses arbres. Aval Shir Bahalasade, mais si le propriétaire du champ, du champ qui est planté en céréales, il a gardé, ne serait-ce qu'un arbre pour lui-même, Noten PA à la colle, il est tenu de donner la PA sur la totalité des arbres qui se trouvent dans le champ. Et donc, on dit, c'est ce Rabbi Yehuda, qui est le même Tana qui est l'auteur de la partie de notre Mishnah concernant cette vente partielle de la tonte. Amar le Rava. Rava, il a objecté à Rav Chisda. Vea moru de Amar. Pourtant, c'est vous-même Rav Chisda qui avez dit. Vehu shitrit ba'al hasadeh liktzor. C'est-à-dire que l'acheteur n'est pas tenu de la responsabilité de donner la PA pour les arbres, à condition que le propriétaire du champ ait lui-même commencé à récolter les céréales qui pousse dans son champ avant de vendre ses arbres. Autrement, dans un autre cas, c'est l'acheteur qui est tenu de donner un PA pour les arbres qu'il a achetés. Ritema Hanami, Reushi Trilixod. Et si tu vas me dire qu'ici c'est également le cas où on parle du cas où le vendeur, il a commencé à faire la tonte, eh bien sous-entendu ce n'est pas une explication. Bishlama Atam. Cela est bien compréhensible dans le cas de la PA, et on comprend que le début de la moisson, avant d'avoir vendu les arbres, ceci entraîne la responsabilité du vendeur. Pourquoi? Parce que le verset 10, c'est un verset qui est dans Vayikra, chapitre 19, le verset 9, et on a un verset identique, chapitre 23, le verset 22. Vous vekutzrechem et ketzir artzechem, lorsque vous moissonnerez la moisson de votre terre. C'est là qui est écrit. Et donc on en déduit, mais idena de atrilixor, que l'obligation commence à partir du moment où la moisson débute, Michaïev Bechulasade, la PA est exigible pour la totalité du champ. Et là, tandis qu'ici, en ce qui concerne la tonte des moutons, mais itna de atril les mégaz, au moment où je commence à tondre l'un des moutons de mon troupeau, là, Michaïev roule edré. On n'est pas tenu de donner Réchitagès pour la totalité du troupeau. Il n'y a pas d'insolidarité. En quelque sorte, il n'est pas marqué Begizasrem au moment où vous êtes en train d'entamer la tonte des moutons, mais c'est marqué Gestsonra, la tonte aux moutons. C'est un état qui n'implique pas une solidarité entre les différentes tontes des divers moutons du troupeau. Et là, Marava, Merava, il a dit, la raison de la Mishnah, elle est due au fait qu'on ne doit pas faire une vente qui dispenserait le vendeur de faire la mitzvah. Donc il ne doit pas vendre la toison à part pour être dispensé. Et s'il y a une obligation de toison, même s'il a vendu, ça reste son obligation. Comme on a trouvé à propos des matanot, c'est-à-dire à Zero Al Vachaim Vakeva, on a une Mishnah à la page Kouf Lamed Bet 132 qui disait comme ça. Amarlo mechor lib nemea shel parazu. Un acheteur dit à un boucher, vends-moi les entrailles de cette vache. Vaya ben matanot. Et parmi ces entrailles, il y avait une partie qui est donnée au Kohen, c'est-à-dire en fait la Keva, la Kayette, notnam la Kohen. L'acheteur est obligé de le donner au Kohen. Ren menakelo vinadamim, et le boucher n'est pas obligé de lui déduire la valeur du prix de vente. Maintenant, la kach mimeno mishkal, si l'acheteur l'a pris non pas forfaitairement mais au poids, notnam la Kohen, l'acheteur doit donner la Keva au Kohen, ou menakelo vinadamim, et le Kohen doit lui déduire du prix de vente. En effet, le boucher n'aurait pas dû le lui vendre et il doit donc lui enlever de la facture en quelque sorte.
Vous êtes en plein cours de Guémara avec Torah Box. Et n'oubliez pas, chaque mot d'étude équivaut à accomplir les 613 mitzvot.
Et ici, nous avons donc terminé le Amud Alev Bidaf Kouf Lametret. Nous tournons la page, nous abordons les quelques lignes qui vont nous permettre de terminer ce chapitre. Alma matanot de Kohen, nomasvin inesh. On voit donc que les matanot qui sont destinés au Kohen, un homme ne doit pas les vendre. Et on ne pense pas qu'il est en train de les vendre. C'est sur ce principe que la Mishnah de Daf Kouf Lamed Bet s'appuie pour les matanot. Achanami, ici également, matanot de Kohen, nomasabin inesh. La partie qui sera destinée est donnée au Kohen. On considère que les gens ne les vendent pas. Ilkar, c'est pourquoi. Chier à Mocher. Si le vendeur il a gardé une partie de la toison pour lui, Mocher Chayav, on considère que le vendeur est obligé de donner Réchitagès pour la totalité de la tonte qu'il détient encore. De Amarle Lokar, en effet, l'acheteur peut lui dire, Matana de Kohen Gabar Hi, ce qui doit être donné au Kohen, c'est rester chez toi, hein, puisque on considère alachiquement que tu ne veux pas te défaire de cette obligation, te défaire de cette mitzvah. La chière, mais dans le cas où le vendeur n'a rien gardé de la toison pour lui-même, l'okar chayav, l'acheteur, il est obligé de donner Réchitagès des toisons qu'il aura acquis, d'amar les mocher, parce qu'à l'inverse, le mocher pourra lui dire dans ce cas-là, matana de Kohen no zavne lach, ce qui doit être donné au Kohen, je ne te l'ai pas vendu. C'est-à-dire, comme Rachid explique, non pas que parce que l'acheteur est tenu de la mitzvah de Réchitagès, ça ne peut pas être le cas puisque les moutons ne lui appartiennent pas. Mais plutôt, le vendeur peut lui dire que parmi la laine qu'il lui a vendue, il y a également la part qui doit être remise au Kohen et qui n'a pas été incluse dans le prix en quelque sorte, mais c'est à l'acheteur de le remettre au Kohen. Simplement, en quelque sorte, il est le chaliach, il est l'émissaire du vendeur. Terminer ce perek Réchitagès.
Masechet Roulin, Nafkouf la Metret, Amoud Bet. Nous entamons Bezrat Hashem le dernier perek de la Masechet, Shiluach Haken. Ce perek traite essentiellement de la mitzvah de Shiluach Haken, qui est mentionnée dans la Torah, dans le Sefer Devarim, dans la Parasha Kitetse, perek Kav Bet, Pasuk Vav et Zain. Qui est carré Kan Sipor Lefanecha, si tu rencontres un nid d'oiseau, Baderer, Bechol Etz, Oal Haaretz, lorsque tu es en chemin, que ce nid soit sur un arbre ou posé par terre, Ephrochim Obetzim, qu'il contienne des oisillons ou des œufs, Veharem Rovetzet, Ala Ephrochim ou Ala Betzim, et la mère est posée sur son nid, ou sur ses oisillons ou sur les œufs. Lotikar haem alabanim. Ne prends pas le contenu du nid alors que la mère est encore sur ses petits. Shaleach teshalach et haem. Renvoie la mère. Vet abanim tikarlar. Et tu pourras ensuite prendre pour toi les petits. Lema anitavlar veha'arar tayamim. Afin qu'Hachem te fasse du bien et que tu aies longue vie. Le Chafetz Chaim résume ainsi la mitzvah dans le Sefer Mitzvot HaKatzar. Lorsque l'on trouve un nid comprenant des œufs ou des oisillons en chemin, et que la mère est posée sur ce nid, si l'on veut prendre ces œufs ou ces oisillons, il faudra d'abord renvoyer la mère, et seulement après prendre possession des œufs ou des oisillons. Quant à la raison pour laquelle ce Pérek trouve sa place dans la Maseret Roulin, le Melechet Shlomo explique au nom du Kolbo, Siman Kuf Yudalef, que la mitzvah de Shiluach Haken va dans le même sens que la mitzvah de Oto Ve'et Beno Lotishretu Beyom Echad. Il y a une interdiction de faire l'abattage rituel d'un animal et de son petit le même jour. Cette mitzvah est évidemment tout à fait à sa place dans la Maseret Roulin, et comme la mitzvah de Shiluach Haken a également pour objet d'enlever du cœur de l'homme la cruauté, car dans les deux cas, la Torah nous rend sensible à la gravité de détruire une lignée, c'est la raison pour laquelle la mitzvah de Shiluach Haken est également étudiée dans la Maseret Roulin. La Mishnah nous enseigne Shiluach Haken noeg baaretz ou bechutz laaretz. La mitzvah de Shiluach Haken est applicable aussi bien en Eretz Israël qu'en dehors d'Eretz Israël. Bifnei Habayit veshelo bifnei Habayit, à l'époque du Beit HaMikdash, aussi bien qu'aux époques où il n'y a pas le Beit HaMikdash. Bechulin aval lo bemukdashim. Elle concerne les animaux du commun et non ceux qui ont été sanctifiés et réservés pour le Beit HaMikdash. Il sera précisé dans la Gemara quel cas précis la Mishnah vient par cela exclure. Chomer bekisui adam mishiluach haken. La Mishnah compare la mitzvah de Shiluach Haken à celle de kisui adam, qui consiste à recouvrir le sang de l'animal dont on vient faire la shrita, l'abattage rituel, avec de la terre. Il existe une chumra, un côté plus strict, et ici un champ d'application plus étendu, dans la mitzvah de kisui adam que dans celle de Shiluach Haken. Chez kisui adam, noeg bechaya ou be'of. En effet, la mitzvah de recouvrir le sang après la shrita est en vigueur aussi bien après l'abattage d'une chaya, d'un animal sauvage, que d'un off, d'un oiseau. Bimzuman ou bechien mezuman. Que l'animal soit à lui, ou qu'il l'ait trouvé en liberté dans la nature. Veshiluach haken enonueg ela be'off, ve'enonueg ela bechien mezuman. Alors que la mitzvah de Shiluach haken concerne uniquement les oiseaux, et uniquement ceux qui ne sont pas en notre possession. Ezeu she'eno mezuman, quel est le cas limite d'oiseaux considérés pour cette mitzvah comme n'étant pas en notre possession? Avazim v'tarnegolim she'kanunu bepardes. Lorsqu'un canard ou une poule s'est sauvé de la ferme et a fait son nid dans un jardin avoisinant. Avalim kanunu babayit, mais s'ils ont fait leur nid dans la ferme, v'chen yonei ardesaot, ou s'il s'agit de colombes d'élevage, dénommé Ardesaot, Pato Mishiloir. On n'est pas tenu dans ces cas-là de faire la mitzvah de Shiluach Haken. Oftame, Pato Mishaleach. S'il s'agit d'un oiseau d'une espèce non cachère, il n'y a pas non plus de mitzvah de Shiluach Haken. La Gemara va expliquer que l'on apprend cela du mot Tzipor, qui signifie un oiseau Taor, d'une espèce permise à la consommation. Oftame, Rovetz, Albetzeov Taor. Si l'on rencontre un oiseau non cachère, qui couve des œufs d'une espèce cachère, vetaor ovetz al betse oftame, ou l'inverse, si un oiseau d'une espèce cachère couve des œufs d'une espèce non cachère, pato ni yeshaleach, on ne sera pas tenu dans ce cas de faire la mitzvah de Shiluach Haken. En effet, lorsque l'oiseau non cachère couve des œufs d'une espèce cachère, cela n'entrera pas dans la définition du mot kantzipor exigé par le verset, duquel on apprend que la mère qui a fait son nid doit être d'une espèce cachère. Dans le second cas, lorsque ce sont les œufs qui ne sont pas cachères, c'est la suite du verset qui ne sera plus applicable, car il est dit Vieta banim tikachlar, tu prendras les œufs ou les oisillons pour toi, velo le clavera, et pas pour donner à ton chien. Il faut donc pour cela que les œufs ou les oisillons soient d'une espèce permise à la consommation. Rachid dit que la Gemara va déduire de cette partie de la Mishnah que s'il s'agit d'un oiseau d'une espèce cachère qui couve des œufs également cachères mais d'une autre espèce que la mère, on sera tenu de réaliser la mitzvah de Shiloh HaKen. Korah Zachar, Rabbi Eliezer Mechayev, Vechachamim Potrin. Le Korah est une espèce d'oiseau qui couvre les œufs des autres. Mais il s'agit d'un oiseau cachère. Il y a à son sujet une divergence d'opinion. D'après Rabbi Eliezer, on sera tenu, dans ce cas également, de réaliser la mitzvah de Shiloh HaKen. D'après Chachamim, on en sera dispensé. La Mishnah nous apprend également que d'après Rabbi Eliezer, la mitzvah devra être effectuée, même si ce Korah est un oiseau mâle. Dans les autres cas, lorsque l'oiseau qui couvre les œufs est un mâle, il n'y aura pas la mitzvah de Shiloh HaKen. Nous commençons l'étude de la Gemara. Rabbi Avin et Rabbi Maïcha, deux enseignements ont été rapportés, l'un au nom de Rabbi Avin, l'autre au nom de Rabbi Maïcha. Chadamar, kol echad etnan ba'aretz bechutz al aretz, shelo letzorer, levad mireshit hagez. Il faut se rappeler qu'il y a dans la Maseret Roulin, six prakim qui parlent de mitzvot particulières, et dans lesquels la première Mishnah reprend la même formulation. Ces six prakim sont Kisuyadam, Otoved Beno, Gidanache, Azroa Verlechayim, Verishitagez, Veshiloh HaKen. Dans tous ces prakim, la première Mishnah enseigne que ces mitzvot sont appliquées Baretz ou Bechutzan Aretz, en Eretz Israël comme en dehors d'Eretz Israël, Bifne Abayit, Veshiloh Bifne Abayit, autant du Bet HaMikdash et autant où il n'y a pas le Bet HaMikdash, Bechulin ou Bemukdashim, et qu'elles concernent les animaux du commun, aussi bien que les animaux qui sont destinés au Bet HaMikdash. Et c'est à ce sujet que l'un des Amoraïm nous enseigne ici, que chaque fois qu'il est enseigné dans ses Mishnayot, Baretz ou Bechutzan Aretz, que les mitzvot en question ont cours aussi bien en Eretz Israël qu'en dehors d'Eretz Israël, l'enseignement n'est pas nécessaire. Hormis dans le cas de Reshit Hagez, le prélèvement effectué sur la quantité de laine tondue et qui est donné au Kohanim, la Fukemi de Rabbi Elai, car il était nécessaire dans le cas de Reshit Hagez d'exclure la position de Rabbi Elai, d'Amar Reshit Hagez et Nonoeg et la Baaretz, qui a enseigné que la mitzvah de Reshit Hagez n'est appliquée qu'en Eretz Israël. Rabbi Elai tire cet enseignement du fait qu'il fait un rapprochement entre Reshit Hagez et Trouma. Rashi précise que Rabbi Elai tient le même raisonnement dans Zroa Lechayim Vekeva, l'épaule, la joue et le bas du ventre de tout animal que l'on doit donner au Kohanim après l'abattage. Le deuxième Amora tenait l'enseignement suivant, Vechad Amar Kol Echad Etnan Bifne Abayit Veshelo Bifne Abayit. Chaque fois qu'il est enseigné dans ces six prakim que ces mitzvot ont cours aussi bien au temps du Bet HaMikdash qu'au temps où nous n'avons pas le Bet HaMikdash, Shelo Netzorer. Ce détail ne nous apporte pas de nouveautés halachiques particulières, les vad me oto ve'et beno, sauf en ce qui concerne le pérec de oto ve'et beno, l'interdiction d'abattre la mère et son petit le même jour. Sal kadata ramina o ilu be'inyana de kadashim ketiv, tu aurais pu penser, étant donné que cette mitzvah est enseignée dans la paracha de Shor ve'chesev, qui parle des korbanot, des sacrifices, bizman de'ika kadashim ninhog, bizman de'lika kadashim lo ninhog, que cette mitzvah soit en vigueur à l'époque où même les autres korbanot ont cours, mais pas à l'époque où nous n'avons pas le Bet HaMikdash et où de fait les korbanot n'ont pas cours. Car Mashmalan, c'est ce que vient nous enseigner ce détail de la Mishnah, que même à l'époque où il n'y a pas le Bet HaMikdash, la mitzvah de Oto ve'et Beno, de ne pas faire l'abattage d'un animal et de son petit le même jour, reste cependant en vigueur. Les deux Amoraïm dont nous étudions les enseignements ne sont pas en divergence, mais chacun a enseigné une seule des deux lois. Vetarvayu Amre, les deux ont dit ce troisième enseignement, Kol Echad Etnan Bechulin Bemukdashim, dans chacun des six prakim dont on parle. Chaque fois que la Mishnah précise Bechulin Bemukdashim, que les mitzvot étudiés ont cours aussi bien en ce qui concerne les animaux du commun ou les animaux destinés au Bet HaMikdash, les Tzorer. Cet enseignement est chaque fois nécessaire, les Vad Megidanaché. Hormis dans le cas de l'interdiction de consommation du nerf sciatique, car des lagmarins, Pshita, Mishun de Ikdash, Pakale Isur Gidanache Mine, il est évident que ce n'est pas parce que l'animal a été consacré au Bet HaMikdash qu'il n'y aura plus d'interdiction de consommer son nerf sciatique. Lagmara demande, Velavukimna Bevladot Kadashim, pourquoi le fait de dire que l'interdiction de consommer du nerf sciatique à court, aussi bien dans les Khulim que dans les Mukdashim, serait dénué d'intérêt? On a pourtant expliqué dans le Perek Gidanache que l'on peut très bien apprendre d'ici une nouveauté halakhique, à savoir que dans le cas où un animal destiné au Bet HaMikdash porte en lui un fœtus, on apprendrait que l'interdiction de consommer le guide anaché, le nerf sciatique, concerne également ce fœtus. Bien que la kdusha, la sainteté de ce fœtus, a pris effet sur lui déjà au stade embryonnaire, à un stade où les nerfs n'étaient pas encore formés. Il ne serait donc pas du tout superflu de nous enseigner que l'interdit du nerf sciatique peut prendre effet même dans le cas où l'animal est déjà mukdash, réservé au bêta mikdash, auparavant. Car on sait que, sauf cas particulier, un interdit ne se superpose pas à un interdit préexistant. La Gemara va répondre à cette question et montrer que l'on peut maintenir qu'en ce qui concerne l'interdit de consommer le nerf sciatique, il n'était pas nécessaire d'enseigner qu'il s'applique aussi bien dans les choulim que dans les mukdashim. Ou maïtama ou kimna. Pour quelle raison la Gemara, dans le Perek Gidanché, est allée rechercher dans les paroles de la Mishnah un enseignement tellement particulier? Lav mishum de kashyalan. N'est-ce pas que c'était justement pour répondre à la question de en quoi enseigner Cholin ou Mukdashim dans Gidanaché est utile? Lolitne meikara, namilotik shelecha. Il n'était donc pas nécessaire de l'enseigner dès le départ. On n'aurait donc pas eu la question et on n'aurait pas non plus été obligé d'arriver à cette réponse compliquée. La Gemara propose donc ici une réponse beaucoup plus simple. Aide le Tana le Tzorer, Tana nami shelo le Tzorer. Étant donné que l'on a enseigné Ben Bechulin, Ben Bemukdashim, dans les cas où l'enseignement en était nécessaire, le Tana l'a enseigné également dans le cas où cela ne présentait pas d'intérêt à l'Afrik. Une des raisons à cela est que le fait d'enseigner toutes ces Mishnayot selon la même formule les rend plus faciles à apprendre par cœur. Ce qui était prévu initialement lorsque la Torah orale n'était que orale. Citons, pour terminer l'étude de ce daf, un commentaire du Khatam Sofer dans les Tshuvot Orach Chaim, Siman Kouf. Il est rapporté par le Chovot Yair, au nom du Zohar, que le Ta'am, la raison de la mitzvah de Shiluach HaKen, est d'entraîner les lamentations célestes. De même que la mère des oisillons que l'on éloigne de son nid se lamente, de même on déclenche par cela une lamentation de la Imaïla, d'une entité spirituelle nommée la Mère Céleste, au sujet de ses enfants, les Bnei Israël, qui sont en galoute, en exil. Le Khatam Sofer fait remarquer, à partir de la Gemara que l'on a étudiée, qu'elle semble contredire la raison évoquée par le Zohar, car cette raison n'a de sens qu'à l'époque où il n'y a pas de Beth Amikdash et où les Bnei Israël sont en exil, mais à l'époque des rois David et Shlomo, où les Bnei Israël étaient sur leur terre et le royaume juif dans toute son ampleur, de même au temps du Mashiach et du troisième Beth Amikdash, Bimera Bimenu, la raison évoquée par le Zohar n'aura pas de sens. Or, notre Gemara tient que la mitzvah de Shiluach HaKen est appliquée aussi bien au temps où nous avons le Beth Amikdash qu'à une époque où il n'y a pas de Beth Amikdash, c'est donc qu'elle ne tient pas la raison évoquée par le Zohar. Cependant, dans les Tikkuné Zohar, Rabbi Elazar pose explicitement cette question à son père, Rabbi Shimon Bar Yochai. Il lui demande le sens de la mitzvah de Shiluach HaKen donnée par le Zohar est valable aux époques où il n'y a pas le Beth Amikdash. Mais qu'en est-il pour les époques où le Beth Amikdash était là? Et Rabbi Shimon Bar Yochai lui a répondu, même à une époque où nous avons le Beth Amikdash, cette mitzvah aura pour sens d'éveiller les pleurs célestes des Nishmatin Artilaim, les âmes dénuées du mérite des mitzvot. S'il en est ainsi, pourquoi le Khatam Sofer dit-il que notre Gemara est en désaccord avec la raison évoquée par le Zohar? C'est parce qu'il a analysé scrupuleusement les mots employés par notre Gemara, qui sont « Bifne Abayit v'shelo Bifne Abayit, shelo letzorer v'shelo Haken ». La Gemara a dit « Le fait d'enseigner que la mitzvah de Shelo Haken est en vigueur à toute époque, avec ou sans Beth Amikdash, ne présente pas d'intérêt à l'Afrique ». Or, si la Gemara concevait le sens de la mitzvah de Shiluach HaKen comme le fait le Zohar, il y aurait eu un intérêt certain à nous enseigner que cette mitzvah est en vigueur aussi bien lorsqu'il y a le Beth Amikdash que lorsqu'il n'est pas, car cela représentait même une interrogation pour Rabbi Elazar et Rabbi Shimon avant que son père ne lui donne la réponse. C'est ainsi que le Khatam Sofer déduit que notre Gemara donne un sens différent à la mitzvah de Shiluach HaKen que celui évoqué dans le Zohar. Fin du cours sur le Daf Kouf Lamed Ret. Maseret Roulin, Daf Kouf Lamed Tet. Nous reprenons au bas du Daf Kouf Lamed Ret Amud Bet, à la septième ligne en partant du bas. On a appris dans la Mishnah que la mitzvah de Shiluach HaKen d'éloigner la mère oiseau avant de prendre les œufs ou les oisillons qui sont dans son nid est en vigueur Bechulin aval lo bemukdashim. Sont concernés par cette mitzvah les oiseaux du commun, mais pas les oiseaux qui ont été destinés au Beth Amikdash. La Gemara demande Amaylo, pourquoi pas? De Amakra, car le verset a dit Shalach Shalach Taem, tu renverras la mer. Bemishata Metsuvel Shalacho, cela concerne un oiseau vis-à-vis duquel tu as uniquement l'obligation de le renvoyer, et pas une autre obligation. Yatsazé, ce qui exclut cet oiseau destiné au Betamikdash, Sheiyata Metsuvel Shalacho, et la Leavio et de Gizbar, vis-à-vis duquel, avant l'obligation de le renvoyer, tu as d'abord l'obligation de le restituer à l'intendant du Beth Amikdash. Une ancienne version de l'explication de Rashi, rapportée dans le Maharshal, explique la Gemara de la façon suivante. Un oiseau consacré au Beth Amikdash ne peut être concerné par la mitzvah de Shiloh Haken, car la Torah ne peut me demander de renvoyer un oiseau si cela peut entraîner une avéra. Dans le cas d'un oiseau Ekdesh, réservé au Beth Amikdash, si je le renvoie en liberté, je vais entraîner que la personne qui va le trouver et va le consommer ou en tirer profit va commettre une avéra, car un oiseau Ekdesh et Asur Be'ana'a, il est interdit d'en tirer profit. Amar Ravina. Ravina, à partir de l'enseignement précédent de la Gemara, fait la déduction suivante. Ilkar, oftao she'arag tanefesh, patur mishloar. On peut également déduire qu'un oiseau kasher, qui aurait tué quelqu'un, serait également exclu de la mitzvah de Shiloh Haken. Maïtama, et pour quelle raison? D'amakra, shalach te shalach etahem, car le verset nous donne l'obligation de renvoyer la mer. Bemi she'ata metsuve le shalcho, seulement dans le cas où vis-à-vis de cet oiseau, tu n'as pas d'autre obligation que celle de le renvoyer. Yatsazé, ce qui exclut l'oiseau meurtrier en question, she'iata metsuve le shalcho, celui-là, avant l'obligation de le renvoyer pour pouvoir prendre ses œufs, et là, les avions, les beddin. Tu as l'obligation de l'amener au tribunal, au beddin, afin qu'il l'exécute. En effet, lorsqu'il se produit qu'un animal tue une personne, hormis la somme d'argent que le propriétaire de l'animal doit verser aux héritiers, l'animal en question doit être mis à mort par le beddin. La Gemara demande, Echidame, de quel cas s'agit-il précisément? Ide Gamardine, si la sentence de mort a déjà été prononcée.
Nous espérons que ce cours a été apprécié. Retrouvez sur le site torah-box.com gratuitement un cours sur chaque page du Talmud, ainsi que le Daf Hayomi quotidiennement en vidéo.